Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Éric Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver devant les micros de Canal Académie. Canal Académie, la radio située à l'Institut de France, l'institut qui couvre, comme vous le savez, les 5 académies, dont l'Académie française, qui vous avait décerné il y a quelques années le Grand Prix du théâtre pour l'ensemble de votre œuvre. L'Académie avait couronné à ce moment-là un auteur français qui devient aujourd'hui, depuis 92, franco-belge.
Oui.
Alors là, c'est la nouveauté devant les micros de Canal Académie. Une deuxième patrie d'adoption, vous êtes né à Sainte-Foy-lès-Lyon, en France.
Oui, oui. Et maintenant, on peut fort heureusement avoir une double nationalité, parce qu'avant, on perdait la nationalité qu'on avait avant en acquérant une autre. Et grâce à l'Europe, je peux raconter vraiment ma vie à travers mes deux passeports, c'est-à-dire français et belge.
Un citoyen européen.
Alors, pleinement, et un Européen convaincu.
Alors, justement, racontez-nous, que devenez-vous entre nos amis wallons et les flamands dans votre défense de la langue française?
C'est très curieux. J'ai été lu par les flamands uniquement parce que j'avais du succès en Allemagne. C'est pour vous dire comme ce pays est coupé en deux. Le fait qu'un auteur francophone ait du succès dans tous les pays francophones, y compris la partie francophone de la Belgique, n'a pas suffi aux flamands pour qu'ils me traduisent. Il a fallu que j'aie de grands succès en Allemagne pour qu'une maison hollandaise publie mes livres en néerlandais et ainsi qu'ils arrivent en Flandre. Il y a vraiment deux mondes sur une même terre.
Coupés en deux.
D'ailleurs, à Bruxelles même, si vous regardez, vous avez deux vies. Une vie où, par exemple, si vous prenez la liste des best-sellers des livres, ce n'est pas la même d'un côté et de l'autre de chaque langue. Même les musiques ne sont pas les mêmes, même les films ne sont pas les mêmes. Et en même temps, les gens vivent ensemble. Très bien. Je pense qu'actuellement, ce sont les politiques qui posent plus de problèmes que les citoyens. Je crois que c'est un problème de représentation politique. C'est-à-dire qu'aucun homme n'est élu par tous les électeurs belges. Il n'y a aucune élection nationale. Toute élection est communautaire dans une des trois communautés. Celle de Bruxelles, celle de Wallonie ou celle de Flandre. Conclusion, les hommes politiques ne se sentent redevables que par rapport à une seule communauté. Donc, ils font un peu du clientélisme. Et c'est de ce clientélisme qu'est en train de mourir une forme de la Belgique. Mais à mon avis, une autre va naître.
Mais pour vous, le petit Lyonnais natal, comment vous sentez-vous dans vos relations avec la population là-bas?
Moi, en ce moment, je souffre de ce qui m'a fait aimer la Belgique est en train de disparaître, c'est-à-dire cette volonté de s'entendre avec des histoires si différentes qu'il peut y avoir entre les francophones et les néerlandophones. Cet accord qui ne tient qu'à un désir de vivre ensemble. Et il est en train de s'émousser à cause de certains, je dirais presque intégrismes, à cause d'attitudes excessives qui viennent d'ailleurs plutôt du côté de la Flandre.
C'est bien d'avoir un regard extérieur et de pouvoir raconter tout ça, peut-être.
Oui, mais en même temps, moi, si la Belgique vient dans mes livres, et elle est venue déjà plusieurs fois, dans La Rêveuse d'Ostende, dans L'Enfant de Noé.
Et là, dans La Femme au miroir, nous allons parler aujourd'hui.
Voilà, c'est la Belgique que j'aime et la Belgique qui est une vraie terre d'humanité. Et de culture.
Là, c'est Bruges, on en parlera tout à l'heure. Conteur caméléon, Éric Emmanuel Schmitt, c'est un attribut, un titre qui accompagne médiatiquement, on pourra dire, votre aura, que l'on retrouve un peu par-ci, par-là. Votre talent d'écrivain, vous appréciez ?
Le terme caméléon, j'apprécie parce qu'il montre une certaine versatilité et il m'inquiète. Parce que c'est un problème que je me suis longtemps posé quand j'étais jeune, puisque comme j'étais doué pour l'écriture, j'avais une vraie faculté à imiter, à faire du faux Chateaubriand, du faux Proust, du faux Sartre, consciemment.
Mais les peintres font aussi un peu ça, voilà, au démarrage de leur
C'est l'apprentissage.
Itinéraire.
Exactement, voilà. Mais à un moment de ma vie, ça m'inquiétait parce que je me disais, bon, tu peux imiter tous les styles, mais quel est le tien? Et j'avais en tête cette phrase de Cocteau qui disait, à force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise.
Vous êtes sorti de votre couverture écossaise depuis longtemps, je crois. Caméléon, c'est une particularité qui pourrait aussi se rapprocher de l'exercice de style, d'imagination auquel vous venez de vous livrer, donc en publiant chez votre éditeur fétiche, pourrait-on dire, Albin Michel, auquel vous êtes fidèle depuis des années. Vous venez donc de faire publier « La femme au miroir », Caméléon. Trois femmes, mais qui ont des liens entre elles. Vous allez nous expliquer tout ça. Anne, on parlait de Bruges. Anne vit à Bruges, mais au temps de la Renaissance. Anna vit à Vienne, dans la Vienne impériale de Sigmund Freud, que vous avez déjà bien côtoyé grâce à votre visiteur. Et puis Annie, alors là, qui est Hollywood de nos jours, c'est-à-dire Los Angeles, qui porte des mini-jupes.
Encore moins que la mini-jupe.
Encore moins que la mini-jupe. Voilà, donc alors, trois personnalités, trois femmes. On retrouve aussi ce type de démarche, on l'a trouvé dans Concerto à la mémoire d'un ange, quatre nouvelles sur le thème de la rédemption, avec Sainte Rita au-dessus de tout. Alors, qui nous parle du thème de la rédemption, du destin, mais c'est un destin lié par un fil rouge, donc la Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Et là, un lien certain entre ces trois femmes. Alors, sans nous communiquer trop de choses sur le mystère que renferme un livre,
oui.
Un beau mystère, parlez-nous de ces trois femmes.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas de trois nouvelles qui auraient un fil rouge, il s'agit véritablement d'un roman. Et il faut effectivement arriver au bout de la lecture pour voir quels sont les liens qu'il y a entre ces femmes. Au départ, elles apparaissent très différentes. Parce qu'effectivement, entre une jeune fille en 1530 à Bruges qui s'enfuit lors de sa préparation nuptiale et disparaît dans la forêt, quel lien y a-t-il entre cette jeune fille et puis Anna von Wallberg, épouse d'un aristocrate viennois qui revient de voyage de noces et qui cherche à tomber enceinte? Et encore, quel rapport y a-t-il avec Annie Lee, star d'Hollywood, qui est complètement perdue dans la drogue, l'alcool, et qui se donne aux hommes en ne se souvenant même plus à qui elle s'est donnée? Quel rapport y a-t-il au départ? Il semblerait qu'il n'y en ait aucun.
On ne devrait peut-être pas dire qu'il y a un rapport entre elles.
Si, assez vite arrive cette phrase « je me sens différente ». Ces femmes ne se sentent pas appelées au destin des autres femmes, en l'occurrence, pour le dire sommairement, être une épouse ou une mère. Il leur semble que soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas ça leur vie. En même temps, elles ne savent pas ce à quoi elles sont destinées. Et leur point commun, c'est qu'elles vont prendre le risque de larguer les amarres et d'essayer de partir à la découverte d'elles-mêmes. Pour moi, ça, c'est l'aventure suprême. Et celle à laquelle est convié, à mon avis, chaque être humain, vivre sa vie plutôt que la vie qu'ont préparé les autres pour vous. Vivre son destin et non pas le destin selon les autres. Alors, il ne s'agit pas de s'inventer soi-même, mais il s'agit de se découvrir soi-même.
Mais c'est important que vous ayez fait de ces personnages des femmes.
Oui.
Pourquoi?
Ça m'a donné plus de subtilité, plus de corps et plus d'analyse que si j'étais resté dans des personnages d'hommes. Plus de corps parce que justement ce sont des femmes. Et la nature est plus généreuse avec les femmes qu'avec les hommes, puisqu'elle leur offre entre autres le destin de la maternité. Et tout d'un coup, parce que mes personnages étaient des femmes, j'ai pu dire le rapport du corps à la nature, j'ai pu dire l'extase cosmologique, j'ai pu dire la recherche du plaisir et éventuellement l'orgasme, j'ai pu dire l'invasion du corps par les autres, ou par la drogue, ou par l'alcool. Tout d'un coup, le corps est très présent parce que je suis dans le corps des femmes. Et puis, ça me force aussi à plus de finesse dans l'analyse du labyrinthe social. C'est-à-dire que si la nature est généreuse avec les femmes, la société est avare et elle ne leur propose guère d'autre comme fonction que mère ou épouse. Alors, une femme qui veut se réaliser, une femme qui veut exercer un métier, une femme qui se cherche, ça n'a pas sa place dans nos sociétés. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais il y a encore des ruses de l'histoire qui font que ce n'est pas si facile. Donc, je peux rentrer dans le labyrinthe et l'examiner de façon beaucoup plus nuancée, beaucoup plus précise, beaucoup plus fine que si j'étais resté un homme.
Oui, parce qu'écrire sur les femmes, vous le faites depuis longtemps, que ce soit la première chrétienne, femme de Ponce Pilate, Claudia, ou des destinées plus contemporaines comme celle d'Otette Tout le Monde, la rêveuse d'Ostende dont vous nous parliez tout à l'heure, ou la très populaire Dame Rose. Alors, cette fois, le philosophe, le chercheur en spiritualité, en humanité que vous êtes, Eric Emmanuel Schmitt, avait envie de nous dire quoi précisément sur la femme, sur la condition de la femme au cours des siècles pour en arriver aujourd'hui, 2011, où, vous le disiez tout à l'heure, cette société où, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite vient d'accorder le droit de vote aux femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette condition ?
Eh bien, il y a quand même deux régimes dans notre monde, c'est-à-dire il y a le régime des pays occidentaux où on a cherché l'égalité, où on l'a installée, je dirais, de façon juridique, même si encore dans les faits, elle n'est pas placée. Et puis, il y a d'autres pays, comme par exemple les pays arabes, où l'inégalité est flagrante. Dans le printemps arabe, je vois un grand espoir pour les femmes.
Filles et garçons.
Exactement.
On les a vus sur les photos.
Oui, parce que c'est la revendication de citoyens qui disent qu'ils veulent qu'on reconnaisse leurs droits et qu'ils sont égaux. C'est le refus de la confiscation du pouvoir. Donc, cette revendication politique, elle va se doubler d'une revendication féministe, d'une revendication d'égalité. Donc, je vois un grand espoir là. Dans nos sociétés, il semblerait qu'on soit arrivé à un état d'égalité. Or, pour moi, c'est une ruse. C'est-à-dire que je crois que jamais la femme n'a été plus aliénée qu'aujourd'hui, puisque dès qu'on ouvre un magazine, on voit une photographie qui est une véritable agression pour chaque femme, puisqu'on la convoque à observer un modèle de beauté, de féminité, d'érotisation, tout ça pour des raisons purement mercantiles, mais aussi pour asservir. Je crois que voilà, l'égalité juridique est obtenue, et pour moi, le chaos est encore plus grand pour ce qui est d'un destin de femme. Et c'est ce que je montre, enfin ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est-à-dire que cette Annie Lee, cette jeune star, elle ne s'appartient pas. Son corps appartient aux autres. Son corps est sculpté par le regard et le désir des autres. Son corps est envahi par les autres. Et il va falloir qu'elle se déprenne de tout ça. Elle a l'égalité juridique, mais les mains des autres traînent encore plus sur elle qu'auparavant.
Elle continue d'être utilisée,
oui,
mais sans se révolter, sans sortir de ce piège et de ce filet.
Alors, mes trois femmes, dans cette histoire, elles vont devenir rebelles par nécessité, malgré elles. C'est-à-dire que, par tempérament, elles sont plutôt douces, elles sont plutôt aimantes, elles sont tournées vers les autres. On rêverait qu'elles s'accomplissent sans heurts. Or, leur singularité, leur exigence font qu'elles vont être obligées de se dresser contre la société et contre le monde pour s'affirmer. C'est donc des rebelles par nécessité et pas des rebelles par caractère.
Mais alors, comment faites-vous, Eric Manuel Schmitt ? Dites-nous, comment faites-vous ? J'ai fait votre connaissance et beaucoup de lecteurs l'ont fait également au temps du Visiteur, la Nuit de Valogne et du Visiteur. Et je dois dire qu'au cours des années, vous avez parlé de mon évolution personnelle en tant que femme. Et j'ai suivi ma propre évolution personnelle. Vous avez écrit de superbes textes, notamment au théâtre, sur les relations dans le couple, homme-femme. Et chaque fois, c'était une étape que personnellement, et beaucoup de femmes se retrouveront, et donc beaucoup de femmes constituent votre lectorat et vous aiment, et vous le savez, et vous suivent. Vous, Eric Emmanuel Schmitt, vous nous suivez, vous nous avez suivis, et vous avez même des fois anticipé mes réactions, mes évolutions. Alors, où est votre partie féminine ? Dites-nous, il y a un mystère Schmitt dans votre accompagnement de l'âme féminine dans tout ce qu'elle a de particulier, puisque vous nous parliez même de la notion de corps tout à l'heure.
C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été passionné par la confrontation avec le féminin. Passionné parce que c'est des milliers d'heures depuis que je suis né, c'est des milliers de moments passés à échanger, à comprendre, à observer, à intuiter. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'ai besoin d'épouser la réalité humaine, y compris dans sa dimension sexuée, c'est-à-dire pas seulement mon sexe, mais l'autre. Et en plus, arriver à regarder les choses du point de vue de la femme, moi, m'enrichit, puisque ça me contraint à plus de sensibilité, plus de finesse que si je restais dans mon personnage d'homme. Le prototype, il est dans mon roman « L'Évangile selon Pilate ». C'était d'un côté, il y a ce Pilate qui veut comprendre, qui met l'intellect en avant, qui n'est que raisonnement, et de l'autre côté, Claudia Procula, qui a le courage, d'abord qui a, entre guillemets, rencontré Jésus pour des raisons physiques, parce qu'elle était une femme qui saignait et qui n'arrêtait pas de saigner, et ensuite qui va avoir l'audace de la croyance, l'audace de faire le saut. Pour moi, on a tous l'animus et l'anima, comme disait Claudel, c'est-à-dire l'intellect et l'imagination. J'ai toujours vu dans la femme l'être qui privilégiait l'imagination et l'intellect, et je me suis toujours senti très féminin de ce point de vue-là. Même si je suis agrégé de philosophie, docteur en philosophie, j'ai jamais pensé que ça pouvait suffire pour une vie, ça, et qu'il fallait absolument enrichir ça de la chair, du sentiment, de l'émotion, c'est-à-dire de catégories qu'on dit féminines. Alors après, quelle est l'origine du féminin, du masculin? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est naturel? Je n'en sais rien, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais explorer le féminin me passionne.
Justement, des scientifiques l'ont démontré dernièrement. Avant le patriarcat, il a existé des matriarcats dans l'histoire de notre humanité. Le patriarcat qui régit nos sociétés actuellement aurait été fondé par la religion unique, par le christianisme, donnant ainsi un nouveau statut à l'enfant à travers l'autorité du père qui était à nouveau reconnue. Le matriarcat ne reconnaissant pas l'autorité du père, le père n'existant pas puisque pour faire le plus bel enfant, tous les hommes pouvaient se présenter et la femme choisissait. Les rôles étaient complètement inversés. Bon, et on a décrit, et ces historiens nous ont dit, à quel point le matriarcat, lorsqu'il avait le pouvoir, pouvait être encore plus cruel et encore plus présent dans le caractère d'inhumanité que ne l'aura été au cours des siècles le patriarcat.
Donc, ça, c'est un beau sujet.
C'est un très beau sujet.
C'est un très beau sujet auquel je n'ai pas pensé. Et en même temps, j'introduirai tout de suite des réserves par rapport à ça, parce qu'on connaît des pays très chrétiens qui sont des matriarcats. Je pense par exemple à l'Irlande. L'Irlande, comme elle est une île et comme la façon de survivre, c'était la pêche, et que les pêcheurs partaient loin et que les pêcheurs mouraient, l'île était dirigée par des femmes. C'était les femmes qui transmettaient la culture, qui transmettaient la loi et qui dirigeaient et qui avaient les cordons de la bourse. Encore aujourd'hui, en Irlande, quand vous faites un emprunt à la banque, c'est la femme qui le fait, pas l'homme, c'est elle le chef de famille.
Donc, patriarcat, matriarcat, l'homme, la femme, l'être humain, c'est avant tout un être seul. On est toujours seul, Eric Emmanuel Schmitt.
Moi, j'ai le sentiment que non. Au plus profond de la solitude, je ne suis pas seul.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que d'abord, il y a les autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand on écrit et qu'on descend dans l'intimité, bah, ce n'est pas soi qu'on trouve. C'est tous les êtres qu'on pourrait être. C'est tous les êtres qui nous ont faits. Lorsque je suis en train d'écrire, je touche la réalité humaine des autres, pas seulement la mienne. D'ailleurs, la mienne, c'est même celle que je ne touche pas. Quand je dis ça au fond de moi, ce n'est pas moi que je trouve.
Que vous recherchez ?
Pour moi, il n'y a de vie que dans l'expérience de l'altérité. Et puis bon, après, c'est pour d'autres raisons qui seraient plus religieuses ou spirituelles. C'est-à-dire quand je descends alors absolument tout au fond de moi, c'est encore moins moi que je trouve, puisque j'y trouve quelque chose...
De l'ordre de la transcendance.
De l'ordre de la transcendance que saint Augustin désignait comme étant au plus fort de l'intériorité, l'absolu.
Alors cette femme au miroir, correspond à un public, à un lectorat féminin ?
Ah, ça c'était pas une question que je me posais, mais une question que se posaient tous les premiers lecteurs et lectrices, les premières lectrices du livre.
Et votre éditeur peut-être aussi, non ?
Je pense, oui. Et encore les premiers journalistes que j'ai rencontrés au départ disaient « c'est un livre que ne liront que les femmes ». Et je découvre que ce n'est pas vrai.
Alors ?
Alors bien sûr, comme toujours, 70% des lecteurs sont des lectrices. Mais les hommes lisent ce livre, d'ailleurs d'une façon totalement différente des femmes. Et je crois qu'ils lisent ce livre, malgré son titre, « La femme au miroir », parce que c'est un homme qui l'a écrit. Je crois qu'ils sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent à plonger à l'intérieur de l'âme féminine parce que c'est un homme qui leur tient la main. Ce livre serait paru avec un nom d'auteur féminin, je ne pense pas que les hommes le liraient. Mais parce que c'est un nom d'auteur masculin, il y a cette idée tout d'un coup de pouvoir explorer la condition humaine à travers la condition féminine. Alors par ailleurs, la lecture des hommes est très sexuée. Je remarque que la plupart des femmes aiment les deux premiers personnages, c'est-à-dire Anne de Bruges et Anna. Elles aiment moins, ou plutôt elles sont mal à l'aise en face de Annie,
la délurée,
la star d'aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas envie de s'identifier à ce personnage-là. Les hommes adorent d'emblée cette Annie, pas seulement parce qu'elle est un sexe symbole et parce qu'elle est très délurée, mais parce que, je dirais, leur instinct protecteur peut jouer sur cet être qui est à la fois beau, charmant et perdu. Et je constate qu'ils ont un rapport à cette femme qui est très fort, alors que les femmes la repoussent un peu.
Un rapport fort par rapport à la femme fragile.
Oui, exactement.
Toujours un peu le même schéma, non ? Quand est-ce qu'on va en sortir ?
Bien, il ne s'agit pas tant de sortir des schémas que d'en être conscient déjà.
C'est important ? Mais si on en est conscient, c'est pour vouloir changer les choses, changer le monde ?
Moi, je pense que dès qu'on est conscient des choses sont différentes. Ce n'est pas une parole de psychanalyste, hein. C'est une parole d'intellectuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les principes de nos fonctionnements nous apparaissent, d'abord, on se rend compte que ça pourrait être autrement. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a du contingent qui s'installe dans ce qu'on croyait être de la nécessité. Et puis, on peut prendre du recul et on peut faire bouger les frontières.
C'est ce que vous faites, Éric-Emmanuel Schmitt, en vous investissant dans des histoires que vous nous racontez, comme on le disait tout à l'heure, comme un conteur, c'est-à-dire qu'à partir d'histoires spécifiques attachées à des personnages particuliers qui sont sur des chemins qui leur appartiennent, qui font des choix qui leur appartiennent, vous arrivez à dessiner quelque chose qui appartient à l'universel.
Moi, je ne doute pas que l'art romanesque ait une certaine puissance philosophique. Raconter des histoires, ce n'est pas s'abstraire du champ de la pensée. Raconter des histoires, c'est tout d'un coup, avec des personnages de chair, avec des émotions et avec des situations, dire le monde, mais obliger aussi à réfléchir sur le monde. En écrivant cette histoire, je faisais en sorte que plusieurs lectures soient possibles. On peut lire cette histoire comme l'histoire de trois femmes, on peut lire cette histoire comme l'histoire d'une succession, puisqu'elles vont se passer à un certain flambeau, on ne va pas raconter tout le livre, mais on peut lire aussi cela comme l'histoire d'une métempsychose, d'une âme qui migre à travers les siècles, qui est toujours la même, mais qui migre et qui profite de l'expérience des femmes précédentes, puisque finalement la dernière héroïne va quand même mieux s'en tirer, alors qu'elle est dans un monde peut-être plus difficile que les deux précédentes. On peut lire cela aussi comme presque une histoire du combat féministe, c'est-à-dire que, encore une fois, la dernière héroïne va profiter du combat des femmes précédentes pour arriver peut-être à un état d'équilibre et de liberté. Voilà, pour moi, l'art romanesque, c'est créer des tas de pistes qui permettent, dans un halo d'émotions et de réflexions, de penser par soi-même.
Mais alors, comment chacune de ces trois personnages commence à hanter votre esprit et à s'accaparer de votre imaginaire et à s'inscrire dans cette histoire que vous allez nous raconter? Comment est-ce qu'elles prennent forme, chacune d'entre elles, par exemple?
Anne de Bruges,
Anna, Annie.
Anne de Bruges, elle est arrivée il y a très longtemps, il y a 14 ans.
C'est une longue histoire d'amour.
Exactement.
Avec Anne.
Elle m'est arrivée d'emblée avec sa pureté, l'incompréhension qu'elle a d'elle-même, parce qu'elle n'est pas du tout réflexive. Elle est toute spontanéité, elle est toute action, elle est tout ressenti, émotion, sentiment. Et ce sont les autres qui l'obligent à faire le point sur elle, à mettre des mots qui peuvent être dangereux d'ailleurs. Elle est tout de suite venue avec sa force et son innocence et surtout son incapacité de plier. Elle résiste. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis amoureux d'elle et qu'elle était là. La contemporaine, elle est venue assez rapidement, à travers toutes les figures de femmes blessées, de femmes, ravagées, je dirais même, par le métier d'actrice. Ça va de Romy Schneider à des contemporaines. Le personnage d'Anna, lui, il est venu en dernier. En fait, c'est peut-être parce que c'est la plus proche de moi. C'est-à-dire qu'elle est un peu prime sautière et en même temps, elle est intellectuelle. Elle pense beaucoup, mais elle ne sait pas qu'elle pense. Elle me plaît beaucoup et sa révolution intérieure me plaît beaucoup. J'ai habité avec elle pendant plusieurs années. Un livre, c'est d'abord un rendez-vous. Et puis un jour, on se rend en rendez-vous et on écrit. Alors j'ai mis 6 mois à écrire, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Et j'ai fait semblant de vivre comme d'habitude, c'est-à-dire que les gens qui m'entourent ont été très très patients avec moi parce que je faisais semblant d'être là. Mais comme toujours, ils m'ont dit « Mais on voit que tu faisais tellement d'efforts pour faire semblant d'être là qu'on t'a pardonné. »
Et quand on accouche de triplé, c'est d'autant plus douloureux, non?
Exactement.
De triplette.
De triplette.
Éric-Emmanuel Schmitt, vous nous avez donné envie de faire la connaissance de ces femmes et vous avez pu le constater, nous ne sommes pas entrés dans le mystère des destinées que vous leur avez dessinées tout au long de ce livre.
Vous dites que je leur ai dessiné, mais moi, quand j'écris, je n'ai pas du tout ce sentiment. J'ai plutôt le sentiment qu'elles font ce qu'elles veulent et qu'elles avancent toutes seules. Par exemple, quand Anne de Bruges subit un procès, un terrible procès, j'avais envie de lui souffler les bonnes répliques. J'avais envie de lui dire comment sauver sa peau, ce qu'il fallait faire. Moi, je suis un homme, donc la compromission, ça m'est beaucoup plus facile. Et non, elle n'écoutait pas ce que je lui murmurais. Elle répondait avec ses propres phrases et elle allait au-devant d'un destin tragique. Parfois, je suis triste que mes personnages ne m'écoutent pas. C'est moi qui les écoute.
Donc, écrivain, c'est un médium ?
C'est une oreille. Pour moi, écrire, c'est prêter l'oreille et prêter l'attention aux personnages qui sont en moi et qui viennent forcément du monde, parce qu'ils sont rentrés par mes sens, par mes observations, par mes rêveries. Mon bureau, je l'appelle mon écoutoir. Je ne l'appelle pas mon gueuloir. Les phrases, je les entends, dites d'ailleurs à voix douce, pas du tout proférées. Les phrases, je les entends dites à voix douce avant de les écrire. Et oui, pour moi, écrire, c'est prêter l'oreille.
Écrire, c'est un travail ?
Alors, il y a le moment de la création et puis il y a le travail. Le moment de la création, c'est un moment totalement désinhibé, un moment où je n'exerce aucun sens critique, un moment où je laisse passer dans mon esprit tout ce qui doit passer. Je n'ai pas de goût à ce moment-là. J'ai même mauvais goût et je suis content d'avoir mauvais goût. Je me laisse complètement posséder par la matière réelle des personnages, des situations qui arrivent. Et puis après, il y a l'instance critique qui se met en route. Alors ça, c'est le lendemain. Et là, je suis un chien avec l'écrivain du jour d'avant. Et je corrige, je corrige, je corrige. Chaque page du livre a été relue plus de 80 fois pour essayer d'arriver à une fluidité, à un aspect naturel, pour avoir l'air de rien. Voilà, tout mon travail, c'est que ça ait l'air de rien.
Et vous vous posez des fois la question, pourquoi ?
Pourquoi j'écris, c'est une question à laquelle je ne pourrais jamais répondre. Et ça ne me gêne pas du tout, tant que je peux écrire.
Le livre reste ouvert.
Non, mais je crois que tout être est fait d'impulsions fondamentales qui sont totalement inaccessibles. Je crois qu'on est chacun fait pour exercer une activité, regarder les autres de telle ou telle façon, leur tendre la main de telle ou telle façon. Je crois que voilà, on est chacun, on a chacun comme une sorte de destin. Et le bonheur, c'est d'avoir lu son destin et de savoir quel est son destin et de pouvoir l'exercer. Moi, j'ai cette chance. Toujours avec effroi, je regarde en arrière en voyant les moments où j'aurais pu passer à côté de ma vie, passer à côté de mon destin. Et maintes fois, ça a failli se produire. Et maintenant que je suis si heureux dans mon destin d'écrivain, même si c'est parfois un labeur infini et toujours recommencé, je me sens à la fois en harmonie et en sérénité.
Alors, harmonie, sérénité, et c'est vrai que ce sont des mots qui comptent quand on vous voit, quand on vous écoute, vous exprimez, ce sont des mots qui viennent tout à fait à l'idée des personnes qui vous rencontrent, et pourtant ce sont des mots qui posent problème par rapport à la création. Je veux dire, on peut être heureux en créant, alors que la création, c'est des fois le fruit d'une douleur, d'une remise en question incessante.
Je pense que la création, vous avez raison, c'est le produit d'une inquiétude. Cette inquiétude, je l'ai.
Mais vous ne la montrez jamais. Je veux dire, il y a d'autres écrivains qui viennent avec des mines patibulaires, ils n'ont pas dormi de toute la nuit, la création a été rude, terrible. Chaque fois que des animateurs, des journalistes, des commentateurs vous reçoivent, c'est un plaisir. Car nous savons que nous allons passer un moment, comme vous le disiez, empreint de sérénité, de révélation, car nous allons apprendre quelque chose. Et c'est un bonheur que d'apprendre en vous écoutant. Mais justement, c'est ce qu'on doit vous reprocher quelque part.
Sans doute.
De ne pas montrer ce visage en souffrance éternelle devant la création.
Mais l'inquiétude n'est pas de la souffrance. L'inquiétude, c'est une position normale. C'est le doute, c'est le questionnement, c'est l'interrogation sur sa légitimité, l'interrogation sur sa façon d'agir ou de ne pas agir. C'est normal, l'inquiétude. C'est le nerf de l'esprit, c'est l'état normal. Alors, c'est l'inquiétude qui me fait écrire, mais la création est la solution. C'est-à-dire que la création m'apporte le plein qui succède à l'inquiétude. Et après, pouvoir aller dans le monde avec des objets qui sont ces livres ou ces pièces que j'ai préparées amoureusement et voir que ces objets sont reçus et aimés à leur tour par les autres, si ça ne s'appelle pas le bonheur, ça s'appelle comment ?
C'est ça le secret. Et que les jeunes générations devraient comprendre et s'emparer de cette réflexion.
Je crois qu'il faut toujours se mettre du côté de l'être et pas du côté du néant. Il faut cultiver la joie et pas cultiver la tristesse. Et je pense qu'être créateur, c'est être du côté de l'être et de la joie.
Eh bien, nous serons du côté de ces trois héroïnes féminines que nos lecteurs et lectrices retrouveront dans La femme au miroir, paru aux éditions Albin Michel. Éric-Emmanuel Schmitt, merci de votre visite devant les micros de Canal Académie.
Merci à vous.